Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine.
Tous les écoliers rencontrent un jour son nom associé à l'encyclopédie, et pourtant Jean-Laurent d'Alembert ne se résume pas à ce projet emblématique des Lumières. Il fut d'abord et aussi un grand mathématicien. Ses contributions scientifiques lui ont valu d'être élu à l'Académie des sciences à 24 ans, et qui plus est dans un moment de pleine effervescence scientifique au XVIIIe siècle. Et pour parler de cette facette méconnue de d'Alembert, de son apport aux mathématiques et de ses controverses scientifiques auxquelles il a pris part, je suis en compagnie de trois spécialistes. Irène Passeron, historienne des sciences au CNRS, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Guilbeault, enseignant-chercheur à Sorbonne Université.
Bonjour.
Et Christophe Schmitt, chargé de recherche au CNRS. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, vous coordonnez tous les trois l'édition des œuvres complètes de d'Alembert. Plusieurs volumes ont déjà été publiés, annotés, commentés, pour mieux faire comprendre les apports de cet homme à son siècle. Je le disais à l'instant, les élèves rencontrent son nom quand ils étudient au collège, au lycée. Un nom dont l'origine est assez mystérieuse. Jean-Laurent d'Alembert est ce qu'on appelle un enfant naturel, un bâtard, pour le dire plus vulgairement. Il a été abandonné à sa naissance. Alors d'où lui vient ce patronyme? Qui veut commencer?
Eh bien, Irène va commencer.
Irène Passeron, allez-y.
Alors, bon, d'Alembert, maintenant on le connaît a posteriori, après qu'il ait écrit l'encyclopédie, après qu'il ait été correspondant de Voltaire, de Lagrange, on le connaît comme mathématicien et comme géomètre. Mais en fait, il n'était pas du tout connu à sa naissance, puisqu'il est abandonné sur les marches d'une église le 16 novembre 1717. Il est abandonné dans une boîte en pain, c'est-à-dire pas grand-chose. Très exactement, le commissaire, parce que c'est un commissaire de police qui vient récupérer les enfants trouvés dans cette petite église qui est à côté de l'église Notre-Dame, pas très loin d'ici, et où on laisse souvent les enfants trouvés. Et donc il écrit « De l'ordonnance de nous, Nicolas de Lamarre, conseiller du roi, commissaire du Châtelet, a été levé un garçon nouvellement né, trouvé exposé et abandonné dans une boîte de bois de sapin, exposé dans le parvis Notre-Dame, sur les marches de l'église Saint-Jean-le-Rond. »
Voilà, le nom de l'église a toute son importance.
« Lequel nous avons à l'instant fait porter à la couche des enfants trouvés pour y être nourris et allaités en la matière accoutumée. » Sa mère ne l'a pas reconnu. Alors, on sait qui c'est parce que c'était une notoriété publique au XVIIIe siècle. Lui-même l'a vaguement dit. Diderot, dans le rêve de d'Alembert, y fait allusion. C'est la scélératesse chanoinesse de Tencin qui, d'un de ses amants probablement, a eu cet enfant et l'a abandonné. D'où son nom au départ de Jean-Laurent.
Alors, sa mère, donc vous avez dit son nom, Madame de Tencin, c'est un secret de Polichinelle, on sait très bien que c'est sa mère. Elle est assez influente dans le milieu parisien. L'identité de son père est un peu plus floue. On parle d'un certain Louis Camus des Touches. Est-ce que c'est son père véritable, biologique? Qu'est-ce que vous en dites,
Eh bien, on en sait peu. Il y a des hypothèses, toujours faites par Françoise Launay, sur le fait que ça pourrait être la personne qui a financé ses études, qui est effectivement le chevalier des Touches, un militaire. Mais plus probablement, il n'est peut-être qu'un prête-nom, puisqu'il parle pour ses parents. Alors, on ne sait pas qui c'est, mais comme dans sa jeunesse, d'Alembert, dans les registres du maître de pension où il est inscrit chez Beuret, et puis plus tard au Collège des Quatre Nations, c'est-à-dire le Collège des Quatre Nations, c'était anciennement ici, d'Alembert est sous le nom de d'Arenberg. Et d'Arenberg, c'est une grande famille princière du Hainaut. Donc, il est aussi un petit peu de notoriété publique que Madame du Tencin avait beaucoup d'amants, et probablement aussi ce noble d'Arenberg. Donc c'est un père potentiel, puisqu'il avait ce nom-là, et que c'est uniquement en rentrant à l'Académie des sciences qu'il va changer de nom pour celui qu'on connaît.
De d'Alembert. Alors on a reconstitué son nom complet, on le comprend bien, il ne vient pas d'un milieu misérable, il a été abandonné à sa naissance, mais on veille sur lui, on prend en charge son éducation, éducation qu'il fait au Collège des Quatre Nations, vous l'avez rappelé, Irène Passeron. On est obligé de faire un petit arrêt sur ce lieu, parce que nous enregistrons ce podcast aujourd'hui même à l'Institut, qui est l'ancêtre, enfin le Collège des Catations est l'ancêtre de l'Institut. C'est un collège qui, au 18e, forme des gentilshommes de tout le pays. Il reçoit une éducation d'élite, on peut le dire ça comme ça, d'Alembert, Christophe Schmitt.
Oui, alors il reçoit une éducation, je pense, assez classique par rapport au cursus des collèges parisiens, ouais. Du point de vue disciplinaire, c'est-à-dire du point de vue de la philosophie classique, du point de vue des mathématiques. Et puis, ce qu'on garde surtout peut-être comme trace, c'est ses réflexions plus tardives sur l'enseignement qu'il a eu et vis-à-vis duquel il s'est montré extrêmement critique, ouais. Tant du point de vue de son contenu que des méthodes d'enseignement. Notamment dans des fameux articles comme cours, collège, où il sera dans l'encyclopédie, où il sera très acerbe par rapport à ça.
Il disait qu'il s'ennuyait pendant ses cours, il était assez déçu de cette éducation. Alors il fait ses classes au collège des Quatre Nations, on remarque assez vite son génie, son aisance qui se manifeste dans toutes les disciplines, en tout cas la philosophie et les mathématiques, mais les mathématiques restent quand même sa vocation première, c'est ce qu'il préfère.
Oui, tout à fait. Ben, les informations qu'on a tendent à penser qu'il s'est formé quasiment seul ou en grande partie en autodidacte aux mathématiques. En tout cas, ce n'est pas par le biais de l'enseignement qu'il a reçu au Collège des Quatre Nations qu'a priori il s'est formé aux mathématiques et qu'il est devenu le mathématicien qu'il va devenir de façon assez précoce.
Est-ce qu'il y a un sujet mathématique qui l'intéresse, lui, tout particulièrement, la géométrie, l'algèbre, il s'intéresse à tout ?
Le champ de ses intérêts est assez varié. Hein. Mmh. Mathématiques et mathématiques appliquées aussi, donc tout ce qui concerne l'application des mathématiques, il va beaucoup s'intéresser à la mécanique, etc., à ces champs-là. Mmh. Après, pour la suite, on peut dire que sa contribution s'est notamment portée sur les mathématiques pures et appliquées, en tout cas ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui, et notamment... beaucoup de contributions majeures en mécanique, dans tous les différents domaines de la mécanique, et des contributions importantes en mathématiques pures, et est-ce qu'on pourrait rappeler l'application des outils d'analyse dans la suite du calcul différentiel et intégral, l'application de ces outils dans différents champs de la mécanique, mécanique des corps, mécanique céleste, mécanique des fluides, mécanique des milieux continus, et tout un tas de réflexions aussi importantes sur les principes. Après, évidemment, ce sont des deux domaines qui vont se développer au fur et à mesure, mais de ses intérêts et de sa formation mathématique dans ses premières années, difficile de vous répondre de façon précise. Donc j'anticipe sûrement un peu avec la suite.
Allez-y, Christophe.
On a en fait relativement peu de manuscrits de jeunesse en fait, de D'Alembert, qui ne permettent pas vraiment de documenter précisément sa formation. On a quelques manuscrits conservés à la bibliothèque de l'Institut, notamment des commentaires qu'il a fait de jeunesse sur les principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton, donc ce livre phare. Il s'est très probablement formé à la mécanique sur ce genre d'ouvrage-là. Il dira plus tardivement dans les éloges d'un grand savant, Jean-Humbert Nouilly, en 1748, qu'il s'est formé presque qu'en lisant Bernoulli et ses travaux mathématiques qui ont été publiés dans différents journaux de l'époque.
Vous avez parlé de Newton, c'est un héritier
Oui, alors peut-être qu'on en parlera davantage quand on aura avancé en âge, puisque c'est à partir du moment où il rentre à l'Académie des sciences, où là on a beaucoup plus d'informations. Mais jusque-là, disons qu'au moment, on approche du moment où il va rentrer à l'Académie des sciences, hein, donc on a parlé du Collège des Quatre Nations. Il devient l'équivalent du bac à l'heure et aujourd'hui maître Essart en 1738. Et il commence à tâter un petit peu de droit, un petit peu de médecine. Là, on a très peu d'informations, mais on sait juste qu'il est déjà, vous l'avez dit, il est certes sans famille et sans lien d'aucune espèce, comme il disait lui-même, abandonné de très bonne heure à lui-même, mais quand même, il a cet entourage, la famille des Touches, qui a un salon, et puis manifestement, il rencontre des gens de l'Académie des sciences, en particulier Maupertuis, qui, dès ses premiers travaux qu'il va présenter à l'Académie des sciences, va écrire à Bernoulli pour lui dire qu'il a rencontré un jeune prodige en mathématiques. Donc voilà, on peut quand même dire qu'à cette époque-là, D'Alembert apparaît comme quelqu'un qui déjà a des qualités de mathématicien exceptionnelles. Et donc, Maupertuis le recommande à Bernoulli. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce qu'en même temps qu'il dit que c'est un jeune prodige en mathématiques, il dit aussi qu'il est plein d'esprit, qu'il est doué pour les imitations, il a des talents de comédien, donc il devait vraiment aussi briller dans les salons. C'est dommage, on n'a pas d'enregistrement, pas comme aujourd'hui. Et qu'il avait l'âme la plus blanche qui ait jamais été. Donc, je ne sais pas ce que ça voulait dire, jeune, mais déjà là, il passait pour avoir cette spontanéité
À vous entendre, on a l'impression qu'il avait beaucoup d'entre-gens, un certain réseau, ce d'Alembert assez jeune. Ses travaux vont rencontrer beaucoup d'écho. À 20 ans, il va, avant même d'être élu à l'Académie des sciences, il va présenter ses travaux à cette jeune académie, on peut dire. On parle encore d'Académie royale des sciences. Elle rassemble les savants les plus éminents de son époque. C'est une institution centrale dans la vie savante européenne à l'époque. Comment elle se place, cette Académie des sciences ?
Elle est même plus que centrale, vas-y.
Alexandre Guilbault.
Plus que central et pas si jeune que ça. Enfin, après, tout est relatif.
Je parlais de notre perspective à nous en 2025, mais oui, ça fait déjà quelques décennies qu'elle existe.
Ouais, c'est 166, je crois, c'est ça.
1666, voilà, la naissance de l'Académie.
C'est ça. Donc oui, elle a acquis, elle est déjà au milieu du XVIIIe siècle, ou même quelques décennies avant, au moment où d'Alembert va y rentrer, elle est au cœur de l'activité scientifique, non seulement française, mais également sur la scène scientifique européenne.
Et alors, il faut bien comprendre ce moment de l'histoire. On est en plein milieu du XVIIIe, un moment de bouillonnement intellectuel. Les savants des Lumières vont remettre en question les dogmes établis, ils cherchent à comprendre le monde à travers l'expérimentation, la quantification. Quels sont les grands sujets scientifiques débattus à l'époque, les grandes controverses qui occupent l'espace public ?
Alors, c'est bien relié avec la question que vous posiez sur le rôle de l'Académie des sciences, parce qu'en fait, si l'Académie des sciences est un creuset au XVIIIe siècle, vraiment incontournable pour l'Europe des Lumières, elle le doit à plein de choses, et en particulier à la façon dont elle orchestre les controverses. Donc, à l'Académie des sciences, c'est au maximum 80 savants, mais dont on va dire 40 vraiment très actifs sur la scène scientifique.
C'est beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Voilà, mais pour l'époque, c'est quand même beaucoup. Une institution d'État qui, on va dire, non pas finance, parce qu'ils ne sont pas tous payés, mais qui, disons, entretient en son sein, avec deux séances par semaine, une très grande régularité, et surtout une visibilité sur la scène européenne qui passe par sa publication, qui sont les mémoires de l'Académie royale des sciences, qui sont diffusées à travers toute l'Europe, et qui viennent en écho à cet incroyable foisonnement qu'il y a au XVIIIe siècle de publications, des périodiques, des journaux, donc qui vont utiliser les publications de l'Académie des sciences. Et c'est par ce biais-là aussi que le nom de d'Alembert devient très connu, parce qu'il publie et aussi parce qu'il expertise tout ce qui arrive à cette Académie si prestigieuse.
Il est vraiment reconnu comme un scientifique de premier plan à l'époque, d'Alembert, Alexandre Guilbault.
Le tournant, ça sera sûrement la présentation à l'Académie et la publication de son traité dynamique en 1743, qui va vraiment lui donner une autre ampleur et qui va asseoir sa renommée de jeune scientifique. Ça s'est fait évidemment par le travers de l'Académie des sciences, mais c'est à ce moment-là qu'il y a véritablement un tournant et que d'Alembert devient un scientifique de premier plan au niveau français et sûrement de façon déjà plus générale au niveau européen.
Il le publie en 1743, vous venez de dire, donc c'est 2 ans après son élection à l'Académie des sciences qui a lieu en 1741. Il est âgé d'à peine 24 ans, c'est un très jeune âge, en tout cas pour aujourd'hui, c'est normal à l'époque de rentrer si jeune, d'être élu si jeune dans cette Académie, Christophe Schmitt.
C'est pas anormal, il y a des précédents comme Alexis-Claude Clairaut qui était dans les années 1730 un membre très jeune de l'Académie des sciences.
Encore plus jeune, je crois.
Ouais, beaucoup plus jeune. Et du coup, il est effectivement connu dès 1743 auprès du grand public par ce traité dynamique. Et je dirais aussi que, globalement, par rapport aux questions que vous posiez sur le newtonianisme, il s'inscrit aussi dans cette nouvelle génération des années 1730 de savants comme Clairaut, comme Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui sont des promoteurs des théories de Newton. Et vraiment, il va s'inscrire là-dedans, il va défendre le newtonianisme. Et puis, il va le défendre par des résultats scientifiques, c'est-à-dire il va développer la théorie de la gravitation universelle, l'appliquer à différents d'autres champs par l'usage de l'analyse mathématique, à un niveau extrêmement poussé. Il va écrire beaucoup d'articles dans l'encyclopédie pour promouvoir la méthode newtonienne, faite d'expérimentation, d'observation et surtout de lois mathématisées, lois physiques mathématisées. Et ceci en opposition avec des courants qui traversent l'Académie des sciences jusque dans les années 1730, à savoir une académie qui est plutôt dominée par peut-être une épistémologie cartésienne, néo-cartésienne, des théories cartésiennes qui sont encore présentes, qui sont encore très développées par certains académiciens. Et donc il va y avoir vraiment des moments de conflit très forts à l'Académie sur ces questions-là. Et d'Alembert va être un élément de ce combat et du triomphe en fait des idées newtoniennes au sein de la science on pourrait dire de la science française, parce qu'il va revendiquer aussi l'apport des Français, des académiciens français et de l'Académie des sciences dans le triomphe des idées newtoniennes, et puis aussi promouvoir son propre apport dans ce triomphe-là.
Si on peut essayer de résumer, je pense que ce n'est pas évident, qu'est-ce qui va distinguer cette pensée newtonienne de cette pensée cartésienne, pour que les auditeurs puissent comprendre un peu plus en détail? Est-ce qu'on peut l'expliquer facilement?
On aurait une citation de Voltaire sous la main dans l'une de ses lettres philosophiques de 1734. On l'aurait dit avec beaucoup plus d'habileté, mais globalement, c'est deux mondes, deux façons de se représenter, de représenter le monde, et d'essayer de le mathématiser d'une certaine façon. On a un monde plein, où les planètes bougent les unes par rapport aux autres via des tourbillons de matière, parce que l'univers est rempli de matière chez Descartes.
Donc chez les cartésiens.
Pour simplifier, Newton va amener un monde vide où l'attraction où les planètes bougent les unes par rapport aux autres via une force d'attraction qui agit à distance à travers le vide, via une loi de gravitation universelle qui va être l'une des pierres angulaires de ces Principia Mathematica Philosophiae Naturalis de 1687. Et donc c'est ces deux façons de voir, de représenter le monde qui vont s'opposer. L'une cartésienne qui évidemment est un héritage extrêmement important dans le milieu scientifique français et dans les décennies dont on est en train de parler, 1730, 40, même 50. On a véritablement ce que Christophe a appelé in fine un triomphe des idées newtoniennes grâce à un certain nombre de scientifiques, et pas seulement. Il faut parler de la Marquise du Châtelet qui traduit les Principia Mathematica Philosophiae Naturalis de Newton. Il faut parler de Voltaire aussi, j'en ai juste dit un mot, de tout un tas de scientifiques, philosophes, d'intellectuels qui vont contribuer à l'assise et à la vérification d'une certaine façon scientifique des thèses de Newton, à contrario de celle de Descartes.
Et alors l'avantage aussi, c'est que ces thèses-là, qui peuvent paraître très théoriques, elles s'explicitent dans des choses beaucoup plus parlantes pour le grand public cultivé. Par exemple, la différence entre Newton et Descartes, ça peut se voir sur la façon dont la Terre serait déformée par la gravitation. Donc c'est la question dite de la figure de la Terre. Est-ce qu'elle est aplatie comme une orange ou allongée comme un citron, qui motive des expéditions menées par l'Académie des sciences. Donc là aussi, une histoire de prestige royal bien sûr, hein, qui envoie une expédition au pôle, c'est-à-dire vers la Laponie, et une expédition vers l'équateur pour mesurer la longueur d'un degré d'arc de méridien. Et en fait, ceci, il en est énormément question dans les périodiques, les gens peuvent en parler, s'engueuler, être d'accord, pas d'accord. Donc il y a la question de la figure de la Terre. Il y a aussi des phénomènes qui sont médiatisés, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire le retour des comètes, est-ce qu'elle est prévisible, est-ce qu'en fonction de la précision avec laquelle on obtient le retour de la comète, eh bien une théorie est valable plutôt qu'une autre. Donc ça, là, c'était le cas du retour de la comète de Halley en 1759. Il y a énormément d'observations astronomiques qui sont vulgarisées. Donc, je pense que ça aussi, ça joue un rôle dans le fait que cette controverse qui peut paraître très théorique soit...
Il y a plein de champs de questionnement très, très concrets. Est-ce que D'Alembert, qui fait partie de ce camp, si je puis dire, newtonien, a des ennemis au sein de cette... Le mot est peut-être fort, hein, ennemi. En tout cas, des personnes qui s'opposent violemment à lui, à l'Académie des sciences.
Il y a un certain nombre de querelles,
Christophe,
qui sont inévitables à l'époque, ou peut-être toutes les époques, à faire dire, mais qui, en tout cas, qui sont assez tranchées, oui, effectivement, à l'Académie des sciences. Bon, il y a une grande opposition entre D'Alembert et Alexis-Claude Clairaut, par exemple, hein, qui travaillent sur des sujets très voisins. Finalement, depuis que D'Alembert entre à l'Académie, c'est-à-dire depuis les années 41-43, ils travaillent tous les deux sur des sujets mathématiques et de mathématiques mixtes, physiques, assez proches. Et en particulier sur le problème des trois corps, sur le problème de la théorie de la Lune, où il va y avoir une compétition assez forte entre eux. Puis sur d'autres sujets, en fait, finalement, il va y avoir par exemple aussi une compétition en optique sur la question des lentilles achromatiques utilisées dans les lunettes astronomiques. Donc là, il va y avoir tout un tas de développements théoriques et de compétitions entre eux. Donc oui, il y a beaucoup de querelles.
Mais ils sont tous les deux newtoniens.
Voilà, tout en étant newtoniens et tout en n'étant pas dans les deux parties opposées, on va dire cartésiens et newtoniens.
Alors, dans cette académie, certains membres sont plus influents que d'autres. Il y a toujours des jeux de pouvoir. Est-ce que d'Alembert est un homme écouté, puissant au sein de cette académie? Est-ce qu'il veut mettre en place des changements particuliers?
Eh bien, il ne faut pas oublier que, en fait, d'Alembert n'a pas que cette épée-là dans sa botte. Il a aussi le fait d'être entré à l'Académie française en 1754. Donc,
quelques années après.
Voilà, c'est ça. Quelques années après, il entre à l'Académie française parce qu'entre-temps, il y a eu ce grand événement qui était l'encyclopédie. Donc, il a aussi ce pouvoir-là, d'une certaine façon, même si les deux académies ont des réunions séparées et assez peu de liens, mais il y a d'autres membres qui sont des deux académies, Buffon, Maupertuis, donc voilà, des membres connus. Et probablement que le fait d'avoir ce rôle-là à l'Académie française, ça lui a donné aussi un poids à l'Académie des sciences. En tout cas, clairement, dans tous ces documents qui étaient jusque-là inconnus aux archives de l'Académie des sciences et qu'on a pu rassembler dans l'avant-dernier volume paru, qui s'appelle D'Alembert, académicien des sciences, et qui fait le point sur tout ce qu'on trouve de son activité, eh bien, on a trouvé des traces des tentatives de réforme qu'il a essayé de mener à l'Académie des sciences. Donc, on l'a dit, c'est l'institution prestigieuse du XVIIIe siècle, mais c'est une institution royale qui manifeste le pouvoir royal et qui donc, bien que ce soit essentiellement les académiciens qui aient le pouvoir décisionnaire, on y trouve les traces du pouvoir royal via les honoraires qui sont des aristocrates, qui s'intéressent à la science, mais qui ont un pouvoir d'élection, donc de choisir qui devient académicien.
C'est très monarchique comme fonctionnement.
Voilà, c'est assez monarchique. Et en particulier à l'Académie des sciences, pas comme à l'Académie française où il y a un pied d'égalité. Il n'y a pas plusieurs sortes d'académiciens. Eh bien, pour les sciences, on considère qu'il y a des petits jeunes. Et les petits jeunes, on les appelle des élèves. Et puis, à partir d'un moment, on admet que quand même, élèves, c'est dégradant. Donc, on les appelle des adjoints. Mais il y a quand même des adjoints qui n'ont pas le droit d'élection, qui ont peu de droits de décision. Les associés qui ont un peu plus de droits, mais pas tant que ça. Et puis, les pensionnaires. Alors ça, c'est la classe royale, si je peux dire. Ils reçoivent une pension, comme leur nom l'indique. Et d'Alembert va proposer une réforme pour égaliser ça et faire que les associés, comme les adjoints, puissent participer aux décisions, en particulier aux élections. Ça ne va pas marcher. Il faudra attendre la Révolution pour qu'effectivement, on supprime ces grades.
Du côté de l'Académie française, il va devenir le secrétaire perpétuel de cette académie. Il n'aura pas de volonté de devenir secrétaire perpétuel au sein de l'Académie des sciences.
On sait vraiment. Il dit à Madame du Défend, la célèbre salonnière, quand à un moment donné, elle essaie de le pousser dans les années 50 pour devenir secrétaire de l'Académie des sciences, il dit que c'est trop de travail parce que c'est un travail énorme. Pour rayonner, l'Académie publie une histoire où elle fait les résumés elle-même déjà des mémoires qui sont lues, qui permettent ensuite, ce que je vous ai dit, cette diffusion à travers l'Europe. Donc non, il n'avait pas envie de devenir secrétaire de l'Académie des sciences, mais secrétaire de l'Académie française. Il y rentre en 54 et il est secrétaire de l'Académie française en 72 seulement. Au moment où, alors il ne devient pas secrétaire de l'Académie des sciences, mais en 1773, il va obtenir pour son disciple bien connu, Condorcet, la place de secrétaire de l'Académie des sciences. Donc,
le secrétaire perpétuel, vous
voilà,
voulez dire ?
Voilà, absolument. À l'époque, je ne sais pas si on dit perpétuel. En tout cas, on dit secrétaire de l'Académie des sciences. Et c'est Condorcet qui, à partir de 1773, sera secrétaire de l'Académie des sciences.
Et pour continuer sur cette Académie des sciences, il va y rester 42 ans. C'est un temps assez significatif. Il y restera jusqu'à sa mort en 1783. Alors, on ne peut pas citer toutes ses contributions scientifiques, mais un des derniers volumes des éditions complètes de d'Alembert que vous coordonnez, qui va apparaître en 2025, met notamment en avant ses travaux sur la théorie de la Lune, c'est bien ça? En deux mots, qu'est-ce que recouvre cette théorie, si on peut l'expliquer facilement?
Mais déjà, juste pour, oui. pour dire que même si vous voulez tout savoir maintenant, il est déjà sorti. Donc,
il est déjà sorti.
Voilà, il vient de sortir.
Donc, semaines,
c'est voilà, quelques semaines. Donc,
c'est
en fait, voilà, c'est tout récent.
C'est tout récent. C'est un volume qui a été édité par notre collègue Michel Chaperon. Mm-hmm. Donc, c'est l'édition d'un livre de D'Alembert qui s'appelle Recherche sur différents points du système du monde. Alors, il paraît en 1754 et 1756. Là, c'est le premier tome de 54. Et c'est, comme l'a montré Michel Chaperon, c'est la première théorie littérale de la Lune qui est faite. D'habitude, disons qu'il y a des valeurs numériques dans les théories de la Lune, de, par exemple justement de Alexis-Claude Clairaut ou bien de Léonard Euler, tandis que D'Alembert va donner une première théorie littérale voilà, de l'histoire de la Lune. Donc c'est un livre assez compliqué.
Accessible à tout le monde.
Ce sont des équations très complexes. Il faut vraiment, la maestria, la qualité de chercheurs comme Michel pour annoter ce genre de travail difficile.
Je pense qu'on peut dire que c'est également, enfin, Michel Chaperon-Touzé a également, est l'éditrice du premier volume des œuvres complètes publiées. C'est des textes de mécanique céleste, manuscrits d'ailleurs, qui étaient tous inédits, donc ont été publiés, en tout cas pour la première fois publiés dans cette édition. Et donc, ils sont les premiers travaux de D'Alembert sur la théorie de la Lune, qui est globalement, pour le dire très simplement, c'est le problème des trois corps. Après, rentrer en détail, c'est pas forcément bien facile sans un tableau concret.
Mais on voit le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les trois corps, c'est trois corps en interaction par la loi de la théorie newtonienne. Donc, en fait, deux corps en interaction, c'est assez simple. Et quand le troisième vient semer ce qu'on appelle des perturbations, voilà. Et ça s'applique alors, au système, par exemple, Terre, Lune, Soleil, mais ça s'applique aussi avec Jupiter et ses satellites. Donc, il y a tout un tas d'endroits dans le ciel où on peut mesurer la validité des calculs, des prédictions qu'on obtient à partir de la loi de gravitation newtonienne. Et pour ça, il faut cet outil tout récent, vous diriez, puisqu'il est de la fin du 17e, tout récent, qui est le calcul infinitésimal et intégral. Donc en fait, c'est extrêmement lié à la fois dans la pratique de D'Alembert et dans les enjeux de ce qui se joue au 18e siècle, les avancées de ce qu'on est capable de faire en termes d'intégration, d'équations compliquées, à l'aide du calcul différentiel et intégral. Et c'est là que D'Alembert a une grande maestria, en fait, à manipuler ce type d'analyse, à manipuler, les erreurs. Parce que c'est souvent là-dessus qu'ils sont en train de se disputer. C'est votre méthode n'est pas bonne, la mienne est meilleure.
Et donc, à travers ce travail de Michel Chaperon-Touzé, en fait, en reprenant ses différentes contributions, son travail sur les textes d'Alembert, dans les œuvres complètes, les premiers textes de mécanique céleste, il faut également citer tout le travail qui a été fait avec Jean Souchet sur les travaux d'Alembert sur la précession et la nutation de l'axe de la Terre, qui est également une contribution importante de D'Alembert sur la mécanique céleste. Et avec ce premier volume des recherches sur le système du nom de D'Alembert, on a véritablement mis à disposition du public, on va dire au sens large. Évidemment, c'est un texte très technique, mais un texte de D'Alembert, une contribution de D'Alembert sur la théorie de la Lune qui est expliquée, mise à la portée des scientifiques d'aujourd'hui, remis dans leur contexte pour dessiner ce que D'Alembert, in fine, a apporté sur cette question, qui est l'une des questions de haute volée de l'activité scientifique dans le domaine de la mécanique céleste à cette époque.
Et cette théorie de la Lune, il l'a développée dans les années 1750, ce qui correspond à une période où il s'engage très activement aussi dans la rédaction de l'encyclopédie. Il faut rappeler, dans cette, parce qu'on pense beaucoup à son discours préliminaire qui est devenu un texte manifeste des Lumières, mais il faut quand même rappeler que parmi toutes ces contributions qu'il fait dans l'encyclopédie, ce sont des contributions principalement à 90% scientifiques. Et ça, on ne le sait pas toujours.
Alors, ce sont des contributions effectivement scientifiques et qu'il faut resituer aussi dans le contexte de l'œuvre de D'Alembert, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de circulation entre son œuvre scientifique personnelle et sa contribution à l'encyclopédie. Et inversement, il y a aussi des articles de l'encyclopédie qui vont nourrir des réflexions qui vont se retrouver plus tardivement dans certaines œuvres. Voilà. Donc il y a ce va-et-vient, et alors effectivement, il y a beaucoup de textes qui sont des textes essentiellement des éléments des préfaces des traités scientifiques, hein, qui se retrouvent réinvestis quasi intégralement dans des articles de l'encyclopédie, où il y a des réflexions, disons, sur le fondement des sciences, des choses de nature épistémologique et sans doute un peu moins théorique, un peu moins physico-mathématique, on va dire, dans le détail de manipulation d'équations ou des choses comme ça.
Comment expliquer qu'aujourd'hui, cette facette mathématicienne de d'Alembert soit méconnue ? Alexandre Guilbeault ?
D'une certaine façon, une explication assez simple, c'est faut préciser que les textes scientifiques de d'Alembert, les contributions scientifiques de d'Alembert n'ont jamais été éditées, en tout cas sous la forme d'éditions critiques, comme on en a pour Bernoulli, pour Euler, pour... j'en oublie, Gauss par exemple. Enfin, voilà, donc il y a quelques reprints de ces principaux traités qui datent du 19e siècle, mais sans cela, on n'a pas d'édition à disposition de ces contributions scientifiques. Les textes de d'Alembert ne sont pas forcément facilement accessibles, les textes scientifiques de d'Alembert.
Oui, il est compliqué à lire.
Il est difficile à lire, évidemment c'est beaucoup plus facile d'accès dans l'encyclopédie, mais les traités en tant que tels sont difficiles, la clarté dans ces textes que peut avoir Euler, par exemple, qui est l'un des grands mathématiciens, autres mathématiciens de l'époque, et sûrement avec Clairaut, l'un des principaux concurrents dans ses travaux d'analyste, d'application de l'analyse mathématique à différents problèmes, y compris de mécanique. Mais paradoxalement, pour retourner la question, quand on parle de ses concurrents dans le domaine mathématique, Clairaut et Euler, eh bien, c'est le seul à avoir une assise scientifique et une production scientifique reconnue et qui participe de son statut et de sa renommée à cette époque-là, et également d'avoir une contribution dans le domaine philosophique, d'être écrivain, d'intégrer, on l'a dit, l'Académie française. Donc on a vraiment, avec d'Alembert, un homme aux multiples facettes, ce qui n'explique pas complètement la raison pour laquelle on n'a pas retenu la facette scientifique de sa contribution. On retient surtout d'Alembert, vous l'avez dit dès le départ, encyclopédiste.
Son discours préliminaire, oui.
On connaît peu certains de ses textes historiques, littéraires également, hein, je pense. Je ne sais pas si vous pouvez me compléter.
Irène Passeron, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, mais Alexandre a tout à fait raison. La raison pour laquelle d'Alembert n'est pas connu, c'est que d'une part, il n'était pas un très bon vulgarisateur de lui-même. Et que donc, ces textes de mathématiques sont parfois difficiles d'accès. Et puis, il a été plus connu, je dirais, à la fin du 18e, 19e, qu'après, peut-être, son image de défenseur, de promoteur de la science versus la religion. Il a quand même des mots assez durs contre le tribunal de l'Inquisition, sur le fait que la religion empêche parfois de penser dans les faits et dans sa structure. Donc, peut-être que ça a desservi le fait de s'y intéresser, parce qu'il n'était pas un pur scientifique. Il était aussi un épistémologue très intéressant, qu'aujourd'hui les philosophes trouvent intéressant, mais aussi pas très facile d'accès.
Alors, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, vous travaillez à faire connaître l'entièreté. Une grande partie de son œuvre, on l'a dit, vient de paraître un volume qui met l'accent sur ses contributions scientifiques. Peut-être un mot pour finir sur ces volumes, ces éditions du comité d'Alembert. Ce sont des volumes qui présentent les écrits de d'Alembert et qui les commentent, qui les contextualisent. Est-ce que vous voulez chacun dire un mot sur le travail que vous faites au sein de ce comité d'Alembert ? Irène Passeron.
Surtout un travail collectif. Je pense que c'est là-dessus que j'aimerais insister. On a commencé dans les années 1990, et on s'est tout de suite fixé des objectifs très, très ambitieux, c'est-à-dire donner à comprendre pour un scientifique d'aujourd'hui, donner à comprendre pour un historien d'aujourd'hui aussi tout le contexte dans lequel ça se passe, et ne rien omettre de ce qu'on avait, c'est-à-dire la correspondance, les brouillons, pour voir la pensée en marche, en fait. D'une certaine façon.
C'est un travail immense. À ce jour, combien de volumes ont été édités, Alexandre Guilbeault ?
C'est un travail de longue haleine, en effet. 9 volumes. Le 9e vient de paraître. Le volume 1-9A. C'est organisé en 5 séries et à l'intérieur décomposé en différents
volumes.
Sur
le site, vous avez même mis un tableau qui récapitule.
En fait, c'est utile d'en dire un mot, peut-être, de la décomposition en série, parce que finalement, elle éclaire aussi un peu le déroulé général, mais y compris de l'œuvre, puisqu'on parle beaucoup d'Alembert, de la façon dont ses travaux s'organisent. On a deux séries scientifiques, la série 1 et la série 3. Les premiers travaux académiques, les traités, les grands traités de d'Alembert, donc dans la première série. Et on a une deuxième série qui est la contribution plus tardive de d'Alembert, parce qu'il a publié des opuscules mathématiques. Il s'est détourné des voies académiques pour publier à partir des années 1760. Et entre les deux, on trouve la série 2 sur l'encyclopédie, sa contribution à l'encyclopédie. Et on en a parlé, qui est un peu une espèce de phase de transition dans son travail scientifique, qui va permettre de prendre du recul. Et puis on a deux autres séries. Toute la série de ses travaux historiques, philosophiques et littéraires qui sont rassemblés dans la série 4, beaucoup liés, pas seulement, mais d'une part à l'encyclopédie, mais aussi à son travail de membre de l'Académie française. Et puis, toute la série, bah, évidemment, qui englobe l'ensemble de son œuvre, de sa vie, la correspondance active et passive, qui clôt l'ensemble de ces cinq séries. Donc, en tout, c'est colossal. Ça représente une cinquantaine de volumes. Certains vont être édités au format numérique. Le son au format numérique, c'est le cas de toute l'encyclopédie qui est éditée dans le cadre de l'encre. Et puis, c'est également un travail de longue haleine parce que derrière, Irène a parlé de travaux qui ont commencé dans les années 1990. Il y a eu tout un travail d'inventaire des manuscrits de d'Alembert qui a été colossal. Et c'est l'occasion aussi d'en parler parce qu'on est sur le point de commencer à les numériser en partenariat avec la bibliothèque de l'Institut de France, puisque la plupart, pas tous, mais la plupart, une partie conséquente de ces manuscrits sont conservés à la bibliothèque de l'Institut de France, dans les fonds d'Alembert, donc, dont la numérisation va commencer et qui vont constituer un travail qui va nous aider dans la continuation pour préparer la petite quarantaine de volumes qui reste encore à publier.
Et je vous souhaite bon courage pour tout ce travail. Christophe Schmitt, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Simplement, Alexandre a évoqué toutes les différentes séries. Eh bien, c'est ça aussi qui est prodigieux chez d'Alembert. C'est qu'il y a des séries qui sont très scientifiques, il y a des séries qui sont littéraires, philosophiques, et le tout forme vraiment une profonde unité où les choses se nourrissent mutuellement dans la production intellectuelle de d'Alembert. C'est un philosophe et c'est un scientifique.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir éclairé cette facette moins connue de d'Alembert. Je rappelle donc Irène Passeron, historienne des sciences, Alexandre Guilbeault, enseignant-chercheur à Sorbonne Université, et Christophe Schmitt, chargé de recherche au CNRS. Merci à tous les trois. Au revoir.
Merci.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.